Michael.
Alors, ça fait. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Et je vois pas mal de visages que je connais pas. Et je me rends compte que c'est un peu moi le nouveau. Puisque ça fait deux mois que je ne suis pas venu. Et la semaine dernière, je discutais avec des personnes qui sont là justement depuis deux mois. Ils font partie de la communauté, ils sont présents. Et moi, je suis nouveau. Je suis donc Eric, le pasteur de cette église. Et je reviens d'un congé sabbatique de deux mois. Et pour cette prédication, pour ce temps avec vous, j'avais envie de partager une prédication un peu différente, quelque chose de proche sur ce que j'ai vécu durant ces deux derniers mois, avec une dimension de témoignage. Voilà. Donc ce matin, j'aimerais parler du sabbat. Je pense que vous connaissez cette parole de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos. » Personnellement, je trouve que c'est une des plus belles invitations de Jésus. Parce que souvent, on est fatigué, pas d'une fatigue physique qui se réparerait par un bon dodo ou une bonne sieste, mais on est fatigué de ce qu'on porte, de la charge mentale, de ce qu'il faut s'occuper de sa famille, de sa maison, de ses amis, en plus de son travail. Et ça, c'est vraiment un fardeau qui peut nous accompagner. Michael le rappelait quand Jésus dit de se soucier d'abord du royaume de Dieu. Il parle de ses soucis. Que mangerons-nous? De quoi nous vêtirons-nous? C'est un fardeau qui nous accompagne. Jésus dit, venez à moi, je vous donnerai le repos. C'est une des plus belles promesses, mais des fois, elle est un peu déçue, cette promesse. Parce que, je le confesse, j'ai beau être chrétien, des fois je suis aussi chargé que ceux que je croise, avec qui je discute et qui ne le sont pas. Est-ce qu'on est... comment peut-on faire pour vivre ce que Jésus nous appelle? Jésus continue le verset suivant. « Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre être. » Ce que propose Jésus, ce n'est pas seulement de retirer. Ce que propose Jésus, c'est de changer de style de vie. Tout le monde a un style de vie. Une façon de vivre, des habitudes. Et ce qui est proposé avec Jésus, c'est de changer de style de vie. Ce n'est pas juste d'ajouter quelque chose à sa vie, mais c'est de la changer complètement. On parle de conversion. La conversion, c'est faire demi-tour, se détourner de l'ancienne façon de faire pour suivre celle de Jésus. Ce que nous offre Jésus, ce n'est pas juste un bon lit dans lequel on va pouvoir se poser et rester statique. Ce que nous offre Jésus, c'est une vie de mouvement à sa suite, avec des instructions, un enseignement, des commandements à suivre. Il a dit, si vous m'aimez, suivez mes commandements. Avec cette promesse que suivre ses commandements, suivre ce style de vie, nous apportera le repos, le vrai, celui après lequel on court. Je trouve que c'est un défi. C'est un défi pour toute la vie chrétienne et je ne peux pas dire avec assurance que j'ai trouvé la recette. Mais j'aimerais ce matin revenir à la base. Et avant Jésus, il y a eu la loi que Dieu a donnée à son peuple. Et dans cette loi, il y a un commandement de repos. On le trouve dans les 10 commandements à travers deux textes. Dans Exode, et dans Deutéronome. Parce que Dieu a donné la loi dans Exode, et au moment de rentrer dans le pays promis, après le voyage dans le désert, Moïse a répété la loi, et c'est le livre du Deutéronome. J'ai mis les deux textes parce que les deux textes ne sont pas identiques. Alors voilà, c'est la reprise. J'ai oublié ma Bible, donc je vais lire à partir de mes notes. C'est dommage, j'aime bien avoir une Bible, ça fait bien. Mais voilà, je vais prendre ce que j'ai recopié. C'est le quatrième commandement. Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième, c'est un sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. Ça, c'est ce que le peuple hébreu dans le désert a entendu la première fois qu'il a entendu la loi. Et quand il l'a entendu en rappel, Moïse l'a donné sous cette version. C'est dans Deutéronome, au chapitre 5, à partir du verset 12. « Observe le sabbat pour en faire un jour sacré, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'immigré dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. » Voilà, deux versions du même commandement. Il y a beaucoup de choses en commun. Vous avez dû vous dire qu'il y avait des répétitions, mais il y a aussi des différences. Et je les ai mises en couleur dans les deux textes. Qu'est-ce que le sabbat ? Le sabbat, c'est un jour de repos. La loi le dit et le redit, tu ne feras aucun travail. Et déjà, il y a une chose qui m'étonne, c'est que ce soit un commandement, que ce soit un ordre. Parce que le repos, ne pas travailler, c'est un droit que j'aimerais avoir le droit de ne pas travailler. Mais c'est ordonné, un bienfait qui est ordonné. On m'ordonne de ne pas tuer, on me demande de ne pas commettre d'adultère, on me demande d'aimer Dieu. Tout ça, je le comprends. Ça me demande un effort. Mais le repos, aussi, on me l'ordonne. Le repos est un ordre, un commandement, et pas un droit. Et je remarque même que dans le Deutéronome, quand Moïse répète la loi, il insiste plus encore sur ce côté commandement, ordre, comme le Seigneur te l'a ordonné. Comme si l'invitation qui avait été faite dans la première version de la loi, qui avait été faite dans le texte qu'on a dans l'Exode, comme si la promesse de bénédiction ne suffisait pas pour que le peuple l'observe. Quand il en reparle, c'est une obligation. Et effectivement, ce commandement demande du travail et des dispositions. Il faut s'organiser pendant 6 jours pour libérer le septième. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire le septième. Il y a toujours quelque chose qu'on a oublié, quelque chose qu'on aimerait faire en plus, un souci qu'on a dans un coin de la tête et non, je vais le faire tout de suite, ce sera plus simple plutôt que de le repousser au lendemain. Non, ce qui est demandé, c'est de s'organiser pour faire sur 6 jours, et libérer le septième. Deuxième chose qui est remarquable, c'est tu ne travailleras pas, mais tu ne feras pas non plus travailler les autres. Enfants, serviteurs, animaux, immigrés, c'est-à-dire des personnes qui viennent d'ailleurs et qui ont une autre religion, qui ne suivent pas la même loi, à qui leur Dieu ne leur demande pas de faire ça, bien, eux non plus, tu ne les feras pas travailler. Il y a, je trouve, dans cet ordre, une dimension créationnelle. Le peuple est invité à se reposer et à faire se reposer par contagion tout ce qui est autour de lui. Un repos contagieux. L'idée est belle, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement un jour de repos, c'est aussi un jour sacré. Tu te souviendras du sabbat pour en faire un jour sacré, c'est-à-dire un jour mis à part pour le Seigneur. Un jour qui est donné au Seigneur, un jour qui est là pour être centré sur lui, pour son culte. En tant que maître de son peuple, Dieu exige qu'il lui donne un jour par semaine, le septième jour. Quand on y réfléchit, un maître avec son esclave, il exige le plein temps. Dieu demande un jour, et en plus, cette journée-là, il la redonne sous forme de repos pour que son peuple puisse en bénéficier, en jouir. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a ce commandement de repos ? Pourquoi est-ce que le repos est important ? C'est marrant parce que les deux textes donnent deux raisons différentes. Il y a plusieurs raisons pourquoi. Les deux textes nous donnent deux choses à méditer. La première, c'est le lien avec l'œuvre créatrice de Dieu. Dieu nous rappelle ce texte, c'est reposer. Je dis « nous le rappelle » parce que quand on a lu le récit de la création dans la Genèse, on voit que le septième jour, Dieu se repose. Dieu s'est reposé, or, il n'en a pas besoin. S'il est Dieu, il n'est pas fatigué. Il n'a pas besoin de se reposer pour retrouver de l'énergie pour repartir. Il s'est reposé non pas parce qu'il était fatigué, mais parce que c'était bon. Dieu s'est organisé pour tout créer en six jours et pour respecter le jour sacré. Et même, en allant plus loin, en relisant le récit de la création, un très beau récit, je vous invite à lire Genèse 1 et jusqu'au début du chapitre 2, en lisant le récit de la création, on voit que le dernier jour n'est pas comme les autres. Tous les jours, il est écrit qu'il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour, deuxième jour, troisième jour, mais pour le septième, ce n'est pas écrit ça. Le septième, mes amis, n'est pas fini. Il continue. Dieu est encore dans son repos. Dieu prend encore ce temps, et il est disponible pour être avec l'homme, pour le rencontrer. Et à travers notre sabbat, nous sommes invités, nous aussi, à le rencontrer. La deuxième raison qui est donnée pour observer le sabbat, c'est que Dieu a libéré son peuple de l'esclavage. Le peuple d'Israël a une histoire compliqué, dramatique, et il est né réellement quand il a été libéré de l'esclavage. C'est une grande famille qui avait pris de plus en plus, qui était de plus en plus nombreuse, qui habitait en Égypte, et les Égyptiens, comme on fait souvent avec les étrangers, hein, je ne vais pas dire que les Égyptiens sont les seuls à le faire, les ont exploités, les ont réduits en esclavage. Et quand on lit les textes bibliques, en particulier le début de l'Exode, les cinq premiers chapitres, on voit que c'était vraiment dur. Ils prenaient un malin plaisir à en rendre les choses vraiment dures pour ce peuple. Ils travaillaient en partie, tout le temps, H24, comme disent les jeunes. Et Dieu a arraché son peuple de la main des Égyptiens pour l'acquérir, pour que ce soit son peuple, mais pas pour l'exploiter. Son but, c'est de lui faire du bien. Et ce jour de repos qui est ordonné est un moyen de lui faire du bien. Et je remarque aussi dans le texte du Deutéronome que l'homme qui respecte la loi est invité à faire de même. Le jour du sabbat, à l'offrir à ceux qui dépendent de lui, à ses enfants, à ses serviteurs, ses esclaves, même ses animaux. En respectant le sabbat, nous sommes invités à faire comme Dieu. Dieu qui s'est reposé pour contempler sa création, pour s'en réjouir. Dieu qui offre le repos aux autres. En respectant le sabbat, nous sommes invités à faire la même chose, à suivre l'exemple de Dieu, à suivre son rythme. On ne peut pas parler du sabbat, de ce commandement, sans se souvenir que quand même, quand Jésus a eu son ministère, c'était un sujet critique, polémique. Jésus en a beaucoup parlé et il y a eu beaucoup de conflits avec les responsables religieux qui lui ont reproché de faire le jour du sabbat toutes sortes de choses interdites. Alors, de tout ça, et puis des écrits extra-bibliques, on comprend que la tradition juive avait rajouté beaucoup de règles sur ce qu'on pouvait et pas faire. Le texte dit « tu ne feras aucun travail ». Alors, il y avait beaucoup de littérature qui avait été écrite sur « qu'est-ce que c'est un travail ? Qu'est-ce que j'ai le droit ? Qu'est-ce que j'ai pas le droit ?» Parce que si je porte quelque chose, c'est un travail. Oui, mais ça c'est pas lourd. Alors, à partir de quel poids est-ce que ça devient un travail ? Et tout ça, il y avait des pages et des pages, des volumes et des volumes de littérature sur le sujet. Et donc, lorsque Jésus a marché sur terre, il s'est fait tomber dessus, parce qu'il vivait le jour du sabbat. Et un jour, on lui reproche de ne pas respecter le sabbat, il a cette interpellation, où il demande, qu'est-il permis le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal? De sauver la vie d'un être humain ou de le tuer? Ce jour-là, il y avait un malade qui était venu vers lui et qui lui avait demandé d'être guéri. Et les religieux, ils étaient là à l'affût, en train de regarder, est-ce qu'il va le guérir ? Genre, Jésus, c'est un guérisseur, et là, il va travailler, il va faire son boulot, il va guérir le gars, alors qu'il n'a pas le droit. Mais Jésus, ce n'est pas un guérisseur. Un guérisseur qui refuse de fermer son échoppe. Jésus, Jésus, il est là, présent, et il prêche le royaume de Dieu. Et quand il y a quelqu'un qui vient, qui le supplie, qu'est-ce qu'il fait? Il le laisse repartir avec sa maladie dans sa vie misérable pour le restant de ses jours? Non, il choisit de le guérir, de lui redonner la vie, de le sauver. Et tant pis pour ce que pensent les siècles de littérature sur le sabbat. Le sabbat est fait pour faire du bien. Et à un autre moment, face à d'autres reproches, Jésus dira, le sabbat a été fait pour les êtres humains et non pas les êtres humains pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le sabbat, ce n'est pas un ensemble de règles qui viennent oppresser les gens. Le sabbat, il est fait pour l'homme, pour lui faire du bien. Et le Fils de l'homme, Jésus, est le maître du sabbat. Le maître du sabbat, ça ne veut pas dire qu'il est venu pour le supprimer. Il n'est pas venu pour transformer le commandement en droit dont on peut user ou mettre de côté comme ça nous arrange. Mais il est venu pour donner son véritable sens. Faire le bien. Renouveler l'homme. Je le répète, Dieu demande que nous lui donnions un jour par semaine et dans sa bonté, il nous le rend, que nous puissions en profiter. Tout ça, c'est un peu théorique. Le sabbat, qu'est-ce que c'est? Je vais partager avec vous cette définition que donne l'auteur Peter Squadzero. Alors, c'est un auteur à la mode dans l'Église parce que le conseil est en train justement de lire ce bouquin, Devenir un leader émotionnellement sain. C'est un livre qui nous fait beaucoup de bien. Il a écrit plusieurs livres, il y en a d'autres à la bibliothèque. Le sabbat est une période de temps de 24 heures pendant laquelle nous nous arrêtons de travailler. Nous savourons le repos. Nous cultivons le plaisir et nous contemplons Dieu. Déjà, une période de 24 heures. Chez les juifs, dans la religion juive, le sabbat, c'est le septième jour, le samedi. Dans la tradition chrétienne, Jésus n'est pas venu dire qu'il fallait le déplacer au dimanche. La tradition chrétienne a mis en avant le dimanche. Et c'est une belle tradition. Le dimanche, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour où les chrétiens se rassemblent pour rendre un culte. C'est un beau jour pour avoir le sabbat. Mais Paul le dit dans l'Épître aux Romains, il le dit aux Colossiens. Vous ne prenez pas la tête avec les jours. Laissez pas les gens vous accuser en disant « c'est ce jour, c'est pas ce jour, tu vas faire ça, tu vas pas faire ça. » L'important, et je pense que c'est ce que Jésus est venu dire aussi, c'est de respecter ce sabbat, respecter cette respiration, la mettre en place dans sa vie. Pas de respecter un jour plus qu'un autre. Même si, il faut être honnête, le dimanche, jour où nous nous rassemblons pour adorer le Seigneur, pour être enseignés, pour jouir de la communauté, est un jour particulièrement adapté. C'est un jour pour s'arrêter et pour se reposer. Et je crois que, en tout cas, ça l'est pour moi, c'est ça qui est le plus difficile. S'arrêter et se reposer. Aujourd'hui, dans notre monde, le travail, c'est largement un travail salarié. C'est-à-dire qu'on est employé par une entreprise et on reçoit un salaire mensuel, toujours les mêmes, tous les mois, peu importe le nombre de jours travaillés. On a des congés payés et le salaire reste le même. Ça a changé depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, c'était une minorité de personnes qui étaient salariées et souvent le salaire, il était journalier. Donc je travaille, j'ai un salaire pour le jour, le lendemain je ne travaille pas, je n'en ai pas. Donc si je respecte le sabbat, le septième jour, je n'ai pas de septième salaire. Et quand je dis minoritaire, c'est que majoritairement les gens étaient indépendants, soit artisans ou agriculteurs. Et là, c'est pas seulement de l'argent qui me manque, mais si je n'avance pas, mes travaux n'avancent pas, mes plantations ne sont pas arrosées, mes bêtes ne sont pas soignées. Il y a une vraie pression à respecter cet arrêt. Et aujourd'hui, on peut trouver facile d'arrêter son travail, on pose des jours et on a des vacances. Mais déjà, ce n'est pas facile pour tout le monde. Il y a des gens qui sont indépendants, qui ont une entreprise et ils ont une commande avec un délai, parfois plusieurs commandes qui se chevauchent et j'aimerais pouvoir avancer comme je le souhaite, au lieu d'avoir une contrainte qui m'empêche de travailler. Il y a des cadres dirigeants dans l'entreprise qui ont des responsabilités, des problèmes à gérer et ces problèmes qui prennent la tête et qu'il faudra faire de toute façon. Mieux vaut le faire le plus tôt possible, d'autant plus que demain, après-demain, les suivants arriveront, viendront bousculer. ne pas prendre de retard, ne pas être dépassé. Je pense aussi aux étudiants. Quand il y a un travail à rendre, quand il y a un examen, un partiel qui arrive, une journée sautée, une journée de révision sautée, c'est une journée qui ne se rattrape pas. Je pense aux parents, au foyer, tous ceux qui, aux divers travaux de la maison, qu'on y consacre la totalité de ses journées ou qu'on le fasse en plus de son travail, ça prend beaucoup de temps. C'est une contrainte pour nous aussi de s'organiser pour tout faire sur 6 jours et libérer un jour complet. Souvent, ça nous oblige à renoncer. On ne peut pas tout faire. Si on veut libérer un jour, il faut faire des sacrifices, accepter que certaines choses ne soient pas faites. Mais c'est l'occasion de faire confiance à Dieu. Michael nous rappelait ce texte tout à l'heure. Est-ce qu'on va s'inquiéter de tout, de ce qu'on mange, de ce dont on s'habille? On le sait, on ne doit pas s'inquiéter. Mais comment est-ce qu'on le vit? Alors on peut le vivre à travers l'offrande, en montrant justement par ce qu'on donne qu'on se détache de ses inquiétudes. De la même façon, on peut le vivre par le sabbat, en prenant le repos, montrer qu'on fait confiance à Dieu pour ce qu'on n'arrive pas à faire. Il y a quelques années, il y a une amie de Diane et moi qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment bousculé. Je n'étais pas encore pasteur, j'avais beaucoup de responsabilités dans l'église, je faisais beaucoup de choses. Et elle m'a posé cette question. Elle ne m'a pas dit qu'elle trouvait que j'en faisais trop, mais j'ai compris avec la question. Elle m'a posé cette question. Éric, est-ce que tu crois que Dieu peut faire tourner le monde sans toi? Elle m'a rien dit d'autre. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire tourner le monde sans toi? Bien sûr, je le confesse, hein, je suis chrétien, il est tout-puissant. La question qu'elle ne m'a pas posée, celle que je me suis posée à moi-même, c'est comment est-ce que tu le montres? Comment est-ce que tu le vis? Ce que tu confesses, comment est-ce que tu le vis? S'arrêter et se reposer, un vrai défi. Également une journée pour se réjouir et contempler. Ce n'est pas seulement une journée où on s'arrête, on va se mettre au lit, on va faire les feignants, ou que sais-je. C'est une journée sacrée où on donne plus de place à Dieu. On met ce jour à part pour faire de la place. On se détache de ses préoccupations pour se tourner vers lui, pour apprendre à mieux le connaître et savoir ce qu'il attend de nous. C'est prendre du recul. Mais prendre du recul, c'est aussi l'occasion de se réjouir. Dieu veut que nous nous réjouissions, comme il s'est réjoui de sa création. La joie, une facette du fruit de l'esprit. Le sabbat, c'est l'occasion de mettre les choses en perspective et de se rendre compte de tout ce qu'il nous donne et de s'en réjouir. C'est se rendre compte de ce que nous avons pu accomplir et s'en réjouir. C'est l'occasion de le remercier pour les capacités qu'il nous a données. Ou de le remercier encore mieux parce qu'il a fait avancer son œuvre malgré nos maladresses. Tout cela est source de joie. On comprend mieux, je pense, pourquoi ce jour est traditionnellement le dimanche. Le culte que nous vivons ensemble est un moment formidable pour contempler Dieu et se réorienter vers lui. À condition que le culte ne devienne pas un nouveau lieu d'oppression, un lieu où je viens par obligation, ou parce que je dois faire une foule de choses avec les responsabilités que j'ai prises. et qui me retire le plaisir que je peux prendre. Se réjouir et contempler, cela demande un effort. Cet effort, c'est s'arrêter et se reposer. Comme on le disait, comme je le disais, le jour qu'on donne à Dieu, il nous le redonne pour faire du bien. Mais concrètement, quel bien est-ce que Dieu nous fait ? J'aurais bien du mal à répondre à cette question. De vous dire, un peu comme une recette, si tu te reposes tant d'heures, tu auras ça. Mais ce que je peux faire et ce que j'ai envie de faire, c'est de partager un peu avec vous ce que j'ai vécu pendant ce temps sabbatique. C'est difficile de faire l'analogie entre un sabbat de 24 heures et un congé de 2 mois, comme je l'ai vécu, mais je crois que ce que j'ai vécu en regroupé et en plus intense, je suis appelé à le vivre chaque semaine durant mon sabbat. Nous sommes tous appelés à vivre cela chaque semaine. La première chose que j'ai appris, et c'est vraiment chronologique, c'est que le monde tourne sans moi. Je suis pasteur de cette église, il y a beaucoup de choses qui, en temps normal, passent par moi. Parfois, je le recherche parce que j'aime bien être au centre de l'action, c'est quelque chose qui me plaît, qui me nourrit. Parfois, je ne le recherche pas et on vient me solliciter et c'est une charge supplémentaire. C'est lourd, mais c'est gratifiant aussi de constater que les autres comptent sur moi. Et pendant 2 mois, l'église a tourné sans problème, sans moi. Je me suis écarté des mails, mais j'ai continué à recevoir les annonces et j'ai vu l'église continuait à... Les cultes avaient lieu, les locaux étaient entretenus, et plus encore, de beaux projets ont vu le jour, comme le culte ouvert fin juin, l'inauguration qui se prépare. Je ne suis pas indispensable. Et je vais vous avouer quelque chose, ce n'est pas forcément plaisant comme expérience. Que je sois là ou pas, ça fait peu de différence finalement. Le conseil, les membres de l'Église s'en sortent très bien. On dit parfois que les cimetières sont remplis de gens indispensables, sous-entendu que ceux qu'on pensait indispensables, on a quand même pu les remplacer. Ce n'est pas amusant de voir qu'on ne déroge pas à la règle. Ça, c'était la première chose que j'ai apprise. La deuxième chose, c'est apprendre à mieux connaître Dieu et son amour. Je souhaitais vraiment, pendant ce temps, prendre du temps pour lire, pour méditer, pour prier. Et lire, c'est vraiment l'occasion de mieux connaître Dieu. Mais aussi de faire le point sur la façon dont je vis les choses. C'est l'occasion de voir qu'il y a des choses sur lesquelles je me suis planté. Je croyais connaître Dieu, il est plus fin, plus complexe que ce que je croyais. J'ai fait des choses que je croyais être bonnes, mais elles ont été maladroites, parfois. Et prendre du recul, c'est l'occasion de faire le point. L'occasion de également de mesurer l'amour de Dieu. Parce que parlant des choses désagréables, ce n'est pas non plus agréable de détecter les choses qu'on n'a pas bien faites, d'avoir les regrets qui viennent comme ça. De constater combien je peux galérer, combien je manque de confiance. Mais Dieu connaissait déjà tout cela. Dieu me connaissait. Et avant que moi je me connaisse, avant que je prenne conscience de ça, lui le savait déjà. Et lui m'aimait déjà, malgré ses défauts que moi je ne connaissais pas encore. Et c'est merveilleux de se rendre compte que l'amour de Dieu est plus grand que ce que je pensais. Je savais déjà que je n'étais pas génial. Je pensais qu'il y avait quelques trucs que je ne faisais pas trop mal. Je me rends compte qu'il y en a moins que ce que je pensais, mais Dieu m'aime. C'est l'occasion de prendre conscience de cet amour. C'est l'occasion de prier, non pas pour débiter les listes de requêtes comme je peux le faire lorsque il faut que ça avance, de prier en silence, d'accueillir les pensées qui viennent, discerner celles qui viennent de Dieu, d'écouter. L'écouter me dire qui je suis vraiment, non pas celui que je crois être, mais celui qu'il veut que je sois. Qu'il est doux, mes amis, d'entendre la voix du Seigneur. Et la troisième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est le plaisir de revenir après le repos. Après un temps de recul, de réorientation, de revenir avec plus, je ne vais pas dire de certitude, mais en tout cas plus d'idées de ce que Dieu attend de moi. Et je vous ai dit que c'était chronologique, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est revenu récemment. Il y a 2 semaines, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas comment faire le tri dans ce que j'avais appris, le stress commençait à monter, je vais revenir, reprendre la charge du ministère, ces 2 mois n'auront servi à rien. Dieu, il dirige toutes choses. Il dirige le temps. Et justement, comme un brouillard qui se dissipe, laissant apparaître la route clairement, les choses se sont éclaircies. Je reviens en ayant appris plus de choses sur Dieu, sur moi, sur ce qu'il attend de moi, la place qu'il veut que je joue dans son plan. Ce temps a été pour moi l'occasion de me réorienter, de revenir avec joie là où il m'a placé. Et c'est en écrivant ces lignes, en préparant cette prédication, que je me rends compte que finalement, tout ceci, ça raconte l'Évangile. Rencontrer Dieu, se découvrir pécheur, limité, maladroit, faisant le mal que je ne veux pas faire, comme dit Paul dans l'Épître aux Romains, mais se découvrir aimé, pardonné, plus encore que ce que je pensais être. Et non seulement aimé, mais aussi avec quelque chose que Dieu attend de moi. Une place pour moi dans son œuvre, pour travailler avec lui. Recevoir une nouvelle direction du Seigneur et s'y élancer avec joie. C'est un peu ça aussi, le but du sabbat, refaire le point sur le salut que j'ai en Jésus-Christ et comment il transforme ma vie pour la rendre bien plus intéressante que ce qu'elle est sans lui. Alors, je ne vais pas donner l'impression que je suis devenu un grand sage. Je ne pense pas que je sois arrivé. Je m'attends à encore trébucher. Mais je crois que pratiquer le sabbat, ce sabbat régulier, c'est quelque chose de bon pour garder la bonne route. Je crois que le sabbat commandé par Dieu à son peuple apporte beaucoup de choses. Difficile de comparer ce que j'ai vécu pendant 2 mois avec ce qu'on peut avoir chaque semaine, mais je suis convaincu que s'arrêter, se reposer, se réjouir et contempler pendant 24 heures aide dans la marche fidèle avec Dieu. Alors, je ne vais rien vous promettre sur ce que vous allez vivre dans ces temps-là. J'aimerais vraiment vous inviter, nous inviter tous ensemble à essayer de le respecter de plus en plus, à honorer ce qu'a voulu le Créateur. Face au monde qui veut tourner 7 jours sur 7 sans interruption, ni même de différence entre le jour et la nuit, de rester un peuple prophétique qui respecte la création du Seigneur, qui respecte le rythme du Seigneur. Et non pas par le suivi d'une règle pour le plaisir de suivre une règle, mais parce que c'est bon, parce que c'est le plan de Dieu pour l'humanité, pour la création. J'ai commencé par cette parole, je finis par cette parole de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, laissez-vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Je vous invite à la prière.